C'est quoi la première BD sur laquelle t'as flashé?
Ah ouais, je vois très bien. C'est Tintin et le crabe aux pinces d'or. Et c'est vraiment la première BD qui m'a marqué. Et d'ailleurs, je pense que c'est mon premier, pour faire le lien avec celle-là, c'est un peu mon premier rapport à l'horreur. Parce que pour moi, dans cette BD, il y a de l'horreur pure avec le capitaine Haddock qui est en plein sevrage et qui voit Tintin comme une bouteille à débouchonner. Et moi, gamin, je lis ça. Et je comprends pas ce qui se passe là, je comprends pas pourquoi il fait ça, je comprends pas le principe de sevrage en fait, tout simplement. Et je suis perdu là dans la BD, qu'est-ce qui se passe, le mec il devient fou. Et j'en parlais tout à l'heure avec Coraline justement, je trouvais que dans Tintin il y avait beaucoup d'effets d'horreur. Il y avait aussi dans le Lotus Bleu, le gars qui voulait tout le temps couper la tête de tout le monde, et puis plein d'autres choses, il y a de la science-fiction, tout ça, mais bref, là je m'égare un peu, mais mes premières BD, ouais, c'est ça, Crabe aux pinces d'or.
Pourtant, t'as pas du, enfin, ton style est pas très ligne claire, quoi.
On va dire que c'est de la ligne claire, mais pas maîtrisée, quoi. C'est de la ligne claire un peu tremblante, mais en vrai, mais ouais, ma première BD, finalement, c'est celle-là, quoi. Je dis pas que c'est celle qui m'a le donné forcément envie de faire de la BD, même si j'avais déjà cette étiquette de gamin qui lisait de la bande dessinée. Pour moi, c'était pas le truc qu'on pouvait faire. C'est venu après, hein, où j'ai commencé à réaliser que je pouvais en faire. Mais ouais, non, moi, du coup, moi, j'ai plus des influences japonaises. Je sais qu'à un moment, ce qui m'a fait du bien dans les auteurs, c'était Taiyo Matsumoto, qui a réalisé Amer Béton, ou... Amer Béton, c'est les trucs les plus connus qu'il a fait. Où justement, il a une ligne très tremblante, très assumée, très libre. Et moi, c'était un des premiers traits qui m'avait fait du bien, parce que j'avais le droit de me tromper. J'avais le droit de pas être parfait. Et moi, j'aime bien cette idée-là encore de ligne imparfaite, quoi.
Justement, dans L'Enfant Tôme, il y a des personnages qui sont très, très grotesques dans leur aspect, dans un environnement très normal. Et du coup, je trouve que ça accentue en fait leur côté horrible et grotesque. Enfin, je pense proviseur truc d'orientation, ce personnage-là, qui, parce qu'au début la BD dans un cadre très très classe, enfin on sait pas où ça va nous emmener, et ce premier personnage nous fait déjà un petit tiquer. C'était une envie d'amener ce fantastique et cette horreur par petites touches,
ouais.
Pour nous,
ouais, en fait c'est ça, c'est de créer une espèce de caricature pour tout de suite identifier une émotion ou un sentiment. Et ça, c'est une façon de faire très très japonaise, en réalité. Et moi, j'aime bien cette liberté de ton, justement, où quand tu veux exprimer quelque chose, au lieu de passer par un chemin complexe et intellectuel, tu le montres de manière très visuelle et ça marche tout de suite. Ce qu'on a peut-être tendance à faire en franco-belge, c'est vouloir complexifier un intellect et tout, et ça aussi, c'est une autre approche, quoi. Moi, j'aime bien cette approche beaucoup plus directe et qui va tout de suite créer quelque chose, une émotion plus directe, ça me parle beaucoup plus en fait. C'est parce que c'est comme ça que j'ai pratiqué la bande dessinée en tant que lecteur aussi, beaucoup, quoi.
Ça parle beaucoup d'adolescence, des années 90, on reconnaît plein de trucs. Enfin, le fait d'avoir lu Chocobo, j'ai eu un flash mental de nous revoir avec mes potes à faire des courses de Chocobo, tout ça, c'était vraiment... c'est ce truc ancré dans l'époque. Est-ce qu'il y a... Et puis, il y a tout le côté fantastique, mais est-ce que ça... Il y a une part d'autobiographie quand même.
Ouais, j'étais fan de FF, de Final Fantasy, ouais. Oui, il y a ça, il y a... Parce que tu parlais de Chocobo, Final Fantasy, c'est mon premier jeu vidéo RPG, voilà, c'était un style de genre de jeu, bref. Mais il y a aussi le côté social, c'est-à-dire les personnages l'environnement dans lequel évolue le personnage est très similaire à ce que j'ai pu vivre adolescent. Le fait qu'il ait des boutons, le fait qu'il ait une vie familiale un peu complexe et tout, ouais, ça c'est un truc que j'ai vécu. Après, j'ai exacerbé des émotions aussi pour raconter quelque chose.
J'espère,
ma mère n'a pas vraiment voulu me tuer, mais évidemment, elle pouvait mettre la pression pour que je sois pas performant à l'école, mais que j'en mette des bonnes notes, tu vois, que j'ai le droit d'avoir ce moment d'existence, de bienveillance. Mais en tout cas, ouais, il y a une part autobio, ouais.
Ce bouquin termine, je pense que tu as écrit comme étant la trilogie de l'enfance. L'être perdu, on est plutôt sur le rapport aux parents, j'ai l'impression. Enfin, dans le deuxième, on a plus une histoire d'amour, et ici, on est plus sur
La
la
vie
pression sociale,
sociale,
même
ouais.
s'il y a quand même une histoire d'amour sous-jacente, c'est plus
La pression
la pression
sociale.
sociale et
Ouais, c'est ça. Et ouais, du coup, c'est trois bouquins qui ont cet lieu commun de parler de l'enfance, tous trois dans des contextes différents. Et c'est vrai que on grandit d'une certaine manière en fonction de notre milieu social, en fait. Et du coup, c'était ça que je voulais exprimer. Et l'école est un premier lieu social extrêmement fort, dans lequel on n'a aucun repère. Nos parents sont plus là et on doit se faire une place. Voilà. Et ça parle de ça, c'est comment on trouve sa place dans un milieu qui déjà crée des schismes en gros sociaux. Et en plus avec cette pression de réussite et faut être le meilleur entre guillemets. Et ça forme en fait notre société actuelle. Après, voilà, notre monde d'adulte fonctionne exactement sur ce principe de l'école qui est construit déjà comme ça. Après, il y a ce côté un peu sombre, mais il y a aussi le côté un peu plus positif de c'est aussi là qu'on fait nos premières rencontres, nos premiers amis et peut-être des amitiés qui sont éternelles. En tout cas, des amitiés fortes, je trouve. On se bride beaucoup moins à cet âge-là et on fait beaucoup plus confiance tout de suite à l'autre et je trouve qu'on crée des amitiés. Voilà, il y a ce côté-là aussi qui se crée
Oui,
à ce moment-là.
c'est le moment où on se
On se
construit et
construit, ouais.
on va vraiment aller
C'est ça.
se confronter à des choses chouettes,
Ouais.
parfois dures, faire des expériences qu'on n'osera plus faire
C'est
plus
ça,
tard.
ouais.
Enfin,
Exactement.
je trouve aussi que dans ce troisième tome, enfin, si on peut considérer
Ouais.
ça comme pas une série, mais en tout cas un truc, un
Un
ensemble,
triptyque,
un
quoi.
triptyque, c'est quand même le plus violent, enfin, des trois, j'ai l'impression.
Visuellement, ouais.
Ouais, le plus. Mais, enfin,
En tout cas, j'assume beaucoup plus cette violence que les deux autres. Je trouve que dans Pierrot, il y avait de la violence, mais qui était plus dans l'ordre psychologique. On la voit pas, mais elle est quand même présente. Là, c'est plus assumé directement, surtout vers la fin. Je trouve que vers la fin, c'est là où ça l'est le plus, je trouve. Mais c'est parce que je trouvais que ça parlait de ce que provoque ce monde. Ça provoque de la violence en réalité. Hein. On se plaint souvent de plein de choses, mais en fait, c'est la société, elle est créatrice de énormément de choses autour de la violence. Enfin, elle crée beaucoup de violence, de frustration et d'injustice, etc., etc.
oui, et j'ai l'impression que enfin, le personnage a. Quand, je ne sais pas si ça va spoiler beaucoup, bah, tant pis. Quand il perd son fantôme, on sent qu'il est plus atteint par rien, et donc plus par la violence non plus, mais il est éteint d'une certaine manière,
Ouais,
quoi.
c'est ça.
Et je trouvais que cette allégorie je sais pas, du fantôme ou de l'âme est assez belle de, tu vois, de te protéger à un tel point que tu ressentes plus rien.
Ouais, c'est ça. C'est l'idée de se dire qu'à un moment donné, ouais, bah là, pour dire les choses clairement, ça parle d'une dépression, quoi. Clairement, où là, les émotions extérieures t'atteignent plus. Tu erres, en fait. Et là, si tu regardes bien, le personnage principal, il devient une espèce de fantôme en réalité, aux yeux de la société. Au-delà du petit fantôme, le personnage en soi en est un aussi. Il n'a plus d'existence pour la société, il est mort d'une certaine manière, quoi.
Ça m'a d'ailleurs fort surpris la première fin. J'étais là, mais non, il peut pas ça. Et puis ça repart sur tout à fait autre chose. Enfin, j'ai aimé être désarçonné, quoi. J'imagine que c'est voulu aussi et que c'est chercher d'aller nous faire ressentir des trucs.
Ouais, après, le but, c'est vraiment aussi de jouer avec la bande dessinée, le médium qui permet énormément de choses en réalité. Avec la bande dessinée, on peut jouer énormément avec le médium, et créer justement un effet brutal sur ce que c'est la mort. C'est la fin. C'est ça qui symbolise une bande dessinée en tant qu'objet, sa mort d'une bande dessinée, entre guillemets. Hein, c'est la fin, c'est quand on ferme le livre et là, il retourne vivre une autre vie. Mais pour nous, c'est fini. Et là, c'était ça que je voulais inscrire dans le récit, en fait. Du coup, ça provoque ça et de l'assumer vraiment frontalement et pas juste créer une espèce d'épilogue. Voilà, c'est vraiment vouloir jouer avec le médium, vraiment.
Il y a aussi ce truc de lien. Enfin, il y a les trois personnages qui sont mis en avant au début, et puis il y en a un qui disparaît complètement, et il n'y a plus de nouvelles. Enfin, ça aussi, je trouve que c'est des trucs qu'on a aussi de l'adolescence, des
Exactement.
restes des gens avec qui on est potes, et puis d'un coup, c'est fini, tu sais pas
C'est
pourquoi.
exactement ça que je voulais dire. C'est-à-dire que je l'amène comme un personnage principal, et sans aucune raison, il disparaît, parce que moi, c'est comme ça que j'ai vécu des amitiés en tant qu'ad primaire ou adolescent, collège. Des gens que je rencontre, avec qui c'est genre, waouh, ça va être mon meilleur pote de l'année. Du jour au lendemain, il déménage, ou je ne sais pas ce qui se passe en réalité, j'imagine qu'il déménage. D'ailleurs, j'ai un de mes meilleurs potes de primaire qui a déménagé du jour au lendemain. Et là, au jour d'aujourd'hui, je ne sais même pas, même les réseaux sociaux, je ne l'ai jamais retrouvé. Pour l'anecdote, il s'appelle Julien Marie, bon, peut-être qu'il va l'entendre, comme le chanteur Jul, mais c'est pas lui. Ça, c'est vrai d'ailleurs, c'est une vraie histoire. Mais ouais, il s'est un peu inspiré de ça, de ce côté. Bah ouais, du jour au lendemain, tes potes, ils partent, leurs parents décident pour eux en fait. Et c'est une forme de deuil que tu dois faire, mais que tu t'es là, tu te dis, bah voilà, du jour au lendemain, t'as aucune explication, etc. Et c'est comme ça que ça se passe. Ouais, c'était ça que je voulais amener avec ce personnage-là. De ce côté, oui, tu n'as aucune nouvelle. Et puis parfois, t'entends une rumeur ou un truc, et puis, ah ok, ou alors jamais.
Je voulais aussi parler de l'aspect plus technique, de comment tu bosses. Est-ce que tu bosses en tradi? Est-ce que tu bosses en
Là, pour
digital?
le coup, sur cette BD, même les trois en réalité, sauf Lettres perdues où c'est un peu les deux, celle-là, j'ai bossé essentiellement en digital. Du début à la fin, il y avait une première partie de recherche dans un carnet qui était faite complètement en tradi, les couleurs et tout, où j'ai vraiment beaucoup cherché comme ça. Et qui en plus prenait une direction très différente de ce qu'elle est maintenant la bande dessinée, avec des idées graphiques totalement différentes. Et au final, c'est parti en digital, c'était plus simple pour moi. Et les autres, pareil, elles sont en digital aussi. Mais ça, là, j'aimerais justement, c'est une des choses que j'aimerais faire pour les prochains livres, c'est de travailler en tradi de A à Z. Vraiment, c'est un truc que j'aimerais faire vraiment maintenant.
T'as aussi scénarisé avec d'autres gens. Est-ce que c'est une expérience que tu as envie de réitérer? Ou toi scénariser ou de dessiner le scénar de quelqu'un
Peut-être, ouais.
d'autre?
Peut-être scénariser et. Ouais, peut-être. C'est quelque chose que j'aimerais bien. J'ai des projets peut-être en cours de ce côté-là. Mais il n'y a encore rien vraiment de concret, quoi.
Donc ça clôture cette espèce de trilogie. Est-ce que tu penses que tu as fait le tour de l'enfance ou est-ce que tu as d'autres thématiques qui t'attirent? Enfin, c'est.
L'enfant, je pense que je pourrais y retourner, mais j'aurais l'impression de. Je sais plus qui disait qu'en fait on raconte toujours, les artistes racontent toujours la même histoire tout le temps, tout le temps. Mais j'aurais l'impression un peu de me répéter là. Je crois que j'ai besoin d'aller explorer autre chose sans vraiment savoir quoi avant de revenir et parler aussi d'autres choses que l'enfance ou des sujets personnels. Je crois que j'ai un peu même fait le tour de choses perso où je me sens un peu plus détendu, un peu plus relâché avec plein de choses. Donc pour le moment, je sais pas encore. Où est-ce que je vais? J'ai des pistes sans vraiment être
Donc
figé,
tu
quoi.
ça, tu prends des
Ouais,
notes, des
ouais.
trucs, des idées, mais rien de.
Rien de fixé encore, ouais.